perkeleen tontot!
Le vendredi, le métal fait son show sur Bike FM. Salut à tous, bienvenue dans l'émission Check Me Load, l'émission qui vous propose chaque semaine un petit tour d'horizon des sorties du moment. Donc, eh bien, au programme de ce 17 janvier, nous aurons un petit florilège de ce qui sort ce vendredi. Alors j'ai 3-4 albums à vous proposer et puis on aura une interview avec un groupe qui nous vient de Lyon qui a sorti un très très bon album au mois d'octobre dernier. Ce groupe c'est Days Await, leur album c'est Raptor Smite et on en parlera tout à l'heure avec un des membres du groupe. On recevra Olivier qui est guitariste et qui nous parlera donc du parcours de Days Await mais également de ce nouvel album qui met en lumière eh bien, notre scène death trash française avec beaucoup de talent. Et puis bien sûr on terminera l'émission avec la rubrique Sortez Cover. Aujourd'hui on va aller à la toute fin des années 70, vous verrez ça tout à l'heure en fin d'émission, mais pour l'heure eh bien, je vous propose de lancer les hostilités avec la première sortie du jour de ce vendredi 17 janvier, c'est le nouvel album du groupe Magnum, donc rien à voir avec la série télé avec son héros moustachu, hein. Magnum c'est un groupe anglais qui sort aujourd'hui un album qui s'appelle The Serpent Rings. Alors ils sont originaires de Birmingham et accrochez-vous bien, c'est un groupe qui existe depuis 1972. Il a notamment été créé par le guitariste Tony Clarkin et le chanteur Bob Catley, qui sont tous les deux encore présents au sein du groupe à l'heure actuelle. C'est eux les deux maîtres à bord, et je crois même que le leader principal, ce serait bien Tony Clarkin. En tout cas, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est partie compo. Alors, pour le style de Magnum, on est sur un hard rock mélodique avec beaucoup d'influences progressives. Dès son premier album qui s'appelle Kingdom of Madness en 78, Magnum se fait remarquer par la presse, par le public aussi, mais c'est dans les années 80 que le groupe va connaître son heure de gloire avec des albums qui sont devenus assez connus, comme par exemple Chase the Dragon qui date de 82, on a eu On a Storyteller's Night en 85, on a eu Vigilante en 86. D'ailleurs, le producteur de cet album-là, ce n'est autre que Roger Taylor, le batteur de Queen. Et la suite de la carrière de Magnum, eh bien, par contre, elle va être marquée par de nombreuses sorties de disques qui sont plus ou moins réussies, jusqu'à l'album Rock Art en 94, après lequel le combo va splitter, et finalement se reformer en 2001, autour de ces deux leaders emblématiques, hein, autour de Bob Catley et de Tony Clarkin. Et depuis, eh ben, le groupe a sorti pas moins de 10 albums studio, parmi lesquels les très remarqués Into the Valley of the Moon Kings en 2009, avec lequel Magnum fait réellement son retour en grâce. Ensuite, il y a eu The Visitation en 2009, Il y a eu, d'ailleurs, c'est en 2010, peut-être, The Visitation, je crois, je vous dis une bêtise. Ce qui est sûr, c'est que On the 13th Day, c'était en 2012. Et puis, les deux derniers en date, non, les trois derniers, non, il y en a eu trois encore après. Il y a eu Escape from the Shadow Garden en 2014, Sacred Blood Divine Lies en 2016, Lost on the Road to Eternity en 2018. Et en fait, bah, tous ces albums ont fait, des années 2010, une décennie absolument incroyable pour Magnum, qui a fait un retour en grâce assez époustouflant pour un groupe qui a connu finalement son premier âge d'or dans les années 80. Aujourd'hui, les indéboulonnables britanniques qui sont de retour dans les bacs, ils ouvrent cette décennie 2020 avec un 21e album qui s'appelle, donc je l'ai dit tout à l'heure, The Serpent Rings, qui, disons-le tout de suite, s'impose déjà comme un excellent cru derrière une très jolie pochette qui est dans la tradition Heroic Fantasy, qui est signée d'ailleurs encore une fois Rodney Matthews, et bien se cachent 11 morceaux enlevés et variés qui vont plaire autant aux fans de hard rock direct qu'aux amateurs de sonorités plus prog. Tony Clarking et Bob Catley, c'est vrai que maintenant c'est peut-être des septuagénaires, hein, ils ont tous les deux dépassé les 70 ans, ils n'en restent pas moins vigoureux et ils n'ont rien perdu ni de leur inspiration ni de leur talent. Désormais flanqué d'un nouveau bassiste qui n'est autre que l'américain Dennis Ward, qu'on a vu aux côtés de Pink Room 69, de Place Vendôme, de Unisonic, Magnum relève encore une fois le défi de ne jamais trahir l'esprit du groupe tout en lui insoufflant une part de surprise, de petites touches d'innovation. Et si vous ajoutez à tout ça une production soignée, vous obtenez un album qui est de très belle facture, qui va vous faire voyager à travers un univers musical riche et coloré. Voici justement un extrait de The Serpent Rings avec le morceau Where Are You Hidden, c'est le morceau qui ouvre le disque. Where Are You Hidden de Magnum à l'instant sur Back FM 106.1 dans l'émission Check Me Load. C'est un extrait du nouvel album du groupe qui s'appelle The Serpent Rings, qui paraît donc aujourd'hui. 21e album pour le groupe qui nous vient, je le rappelle, de Birmingham, qui a été créé en 1972 et qui est toujours bon pied bon oeil. Un album à découvrir si vous êtes amateur de hard rock, si vous êtes amateur de son progressif, vous devriez largement trouver votre compte. On va rester un peu dans cette scène, voilà, non, on va carrément plonger dedans, dans la scène du progressif avec un autre album qui sort aujourd'hui qui était assez attendu. C'est le nouvel album de Sons of Apollo qui s'appelle 2020, comprenez par là 2020, c'est écrit en chiffres romains d'ailleurs. Et voilà, c'est la deuxième grosse sortie de ce jour, mais avant de vous en dire un peu plus sur cet album, laissez-moi vous présenter Sons of Apollo, qu'on avait déjà évoqué lors de la sortie de leur premier album en 2017. Donc c'est un groupe américain, pour le coup formé en 2017, et c'est ce qu'on appelle vulgairement un all-star band, puisqu'il est né sous l'impulsion de musiciens déjà bien connus. En l'occurrence ici, il s'agit de Derek Sherinian, qui s'est notamment illustré en tant que clavier au sein de Dream Theater, qui officie désormais au sein de Black Country Communion, et son acolyte pour ce projet. Au départ, eh bien, c'est le batteur hyperactif Mike Portnoy, qui d'ailleurs était avec Sherinian dans Dream Theater. Hein. C'est d'ailleurs comme ça qu'on l'a connu, notre ami Mike Portnoy, c'est en étant ce fabuleux batteur dans Dream Theater. Et alors c'est pas tout, hein, puisque depuis qu'il a quitté le groupe, il fait partie d'un tas d'autres projets musicaux. Il fait partie de The Winery Dogs, de Flying Colors, de The Neil Morse Bands, de Transatlantics, et je vous dis ça sans compter ses nombreuses autres collaborations, ce serait trop long d'en faire le tour. Et donc, pour donner vie à Sons of Apollo, notre duo Sherinian-Portnoy s'est entouré d'un sacré casting, puisque le combo se compose également du bassiste Billy Sheehan, qui fait partie de Mr. Big, qui en est d'ailleurs un des membres fondateurs. Il est aussi collègue de Mike Portnoy dans The Winery Dogs, on peut le signaler. Le guitariste de Sons of Apollo, c'est Ron Bumblefoot, qui un temps a fait partie des Guns N' Roses, et alors lui c'est pareil, hein, il a un CV, ce serait un peu long d'en faire le tour. Et puis au chant, on retrouve Jeff Scott Soto, au CV lui également impressionnant. Par exemple, il a accompagné Malmsteen, Axel Rudi Pell, il a longtemps officié dans Talisman, il a une carrière solo, enfin voilà, c'est que des gens qui ont une carrière très très impressionnante. Et si tout ce beau monde s'est réuni sous le nom de Sons of Apollo, c'est pour nous délivrer un métal progressif aux accents hard rock et rock'n'roll. Alors cet univers musical, on le découvre d'ailleurs dans le premier album qui s'appelle Psychotic Symphony, qui arrive en 2017, qui brille notamment par la qualité de ses compositions qui sont signées Portnoy et Sherinian, mais aussi par la mise en place de structures musicales à la fois simples et complexes, et par la prestation impressionnante et impeccable de chaque musicien, mais on n'en attendait pas moins de la part de telles pointures, vous allez me dire. Et comme le premier opus a suscité quand même un engouement assez large, qui s'est confirmé lors de la tournée, eh bien Sons of Apollo a repris le chemin des studios pour donner naissance à ce deuxième album, donc le 2020. Alors je vous laisse deviner pourquoi ils l'ont appelé 2020, hein. Ça paraît un peu sous le sens, donc ça paraît aujourd'hui. C'est un deuxième album qui profite cette fois d'une véritable cohésion de groupe qui s'est créée durant ces deux dernières années, bah justement notamment grâce au live, et qui n'existait pas forcément sur le premier album. Avec 2020, Sons of Apollo passe de projet musical à groupe à part entière, et ça change pas mal la donne, puisque ça ajoute de la complicité dans ces nouvelles compos, hein, qui semblent taillées vraiment pour chacun des musiciens, qui, eux, s'ils ne se privent pas pour étaler à tout va leur technicité insolente, hein, comme par exemple Billy Sheehan avec son imposante basse à double manche, eh bien, ils semblent s'éclater ensemble, un plaisir qui devient finalement communicatif quand on écoute le disque. Du coup, bah, même si certains grincheux vont reprocher à Sons of Apollo la longueur de certains morceaux et puis cette débauche de technique, eh bien, les autres vont apprécier cet équilibre quand même parfaitement maîtrisé d'un univers musical à la croisée du hard rock, du heavy, du rock progressif, comme dans le titre Goodbye Divinity qu'on va écouter tout de suite, qui va plaire, bah, autant aux fans de Dream Theater qu'aux fans de Rush ou aux fans d'Emerson, Lake & Palmer. Donc voici tout de suite un extrait de 2020, le nouvel album de Sons of Apollo. Le titre, c'est Goodbye Divinity. We'll be right back. Sons of Apollo sur Back FM avec le titre Goodbye Divinity, un extrait du nouvel album 2020 qui paraît aujourd'hui. Alors si vous cherchez le nom de l'album, faut l'écrire en chiffres romains, donc vous écrivez MMXX, ça s'appelle 2020 en français, voilà, pour le All-Star Band Sons of Apollo qui, je vous le rappelle, est composé de Derek Sherinian au clavier, de Mike Portnoy à la batterie, de Billy Sheehan à la basse, de Ron Bumblefoot Tal à la guitare et de Jeff Scott Soto au chant. Voilà pour ce groupe de métal progressif qui déplaira à ceux qui sont allergiques au style, ça c'est certain, mais qui pourra beaucoup plaire aux autres. Et ce que je vous invite à faire aussi, c'est d'aller voir le clip du morceau qu'on vient d'écouter, Goodbye Divinity, parce qu'il faut les voir jouer aussi les mecs, et là on s'aperçoit que c'est pas des rigolos quoi. Là on l'a écouté dans une version légèrement écourtée parce que le morceau dure quand même assez longtemps, mais allez voir le clip après l'émission. On continue donc dans notre lancée avant de retrouver d'ici quelques minutes l'interview du groupe Days of Wet. On va découvrir une dernière petite nouveauté pour ce vendredi 17 janvier et cette fois-ci on va retourner en Angleterre. On l'avait quitté, on y était tout à l'heure avec Magnum, on l'avait quitté pour les États-Unis. On revient mais cette fois-ci à Londres avec le groupe British Lion qui sort aujourd'hui l'album The Burning. Alors si le nom de British Lion vous évoque quelque chose, c'est peut-être parce que vous suivez la carrière d'un certain Steve Harris. British Lion prend ses origines en 2012 sous l'impulsion donc de ce cher Steve Harris qui n'est autre que le bassiste et membre fondateur du groupe Iron Maiden. D'ailleurs, c'est ce projet parallèle lorsque son premier album sort, il est estampillé non pas du nom de British Lion mais du nom de Steve Harris, British Lion. Alors malgré tout, notre lion du heavy metal, il évolue pas en solo dans ce projet British Lion qui compte également en ses rangs Richard Taylor au chant, Davin Hawkins et Graham Leslie aux guitares et puis Simon Dawson à la batterie. Pour ce qui est du style, on est sur du hard rock, hein, on va la faire simple, hard rock aux influences heavy metal tout bêtement. Alors malgré un emploi du temps bien chargé avec Iron Maiden, Steve Harris va profiter des quelques périodes de calme pour composer et enregistrer les 10 morceaux qui vont composer son premier album, donc l'album British Lion, qui va être mixé à l'époque par le producteur sud-africain Kevin Shirley. Alors lui, il collabore avec Iron Maiden depuis l'album Brave New World en 2000. Hein. C'est l'album qui marquait, souvenez-vous, le retour du chanteur Bruce Dickinson et du guitariste Adrian Smith. C'est cet album-là hein, qui a fait que Maiden est vraiment revenu sur le devant de la scène. Mais pour en revenir à British Lion qui nous intéresse aujourd'hui et à leur premier album, il va bien sûr bénéficier de la popularité de Steve Harris. Et si au final... c'est un disque qui est quand même plutôt sympa. Soyons clairs, on est quand même loin d'être sur le chef-d'œuvre du siècle. Peu importe, hein, c'est au moins un disque qui donne l'occasion à Steve Harris de retourner jouer dans des petits clubs, de s'offrir une belle récré avant de reprendre les choses sérieuses avec Maiden. Et d'ailleurs, à l'époque, Steve Harris, quand on lui demandait s'il y aurait un deuxième album de British Lion, il se gardait bien de le garantir. Et par contre, il avait déclaré que si tel était le cas, il s'écoulerait moins de 10 ans avant qu'un deuxième album ne paraisse. Ça, c'était en 2012, on est en 2020, donc Steve Harris, il a tenu ses engagements avec la sortie aujourd'hui de The Burning, deuxième album avec le groupe British Lion, dont le line-up demeure exactement le même que sur le premier, ce qui est à la fois une force pour la cohésion du groupe, mais aussi une petite faiblesse, parce qu'il faut se souvenir que sur le premier album, le chanteur Richard Taylor, il était loin d'avoir convaincu, et malheureusement, c'est pas sa prestation sur The Burning qui va changer la donne, hein. On le sent à plusieurs reprises, on sent qu'il est à sa limite, quoi. Donc, avec quand même un manque de hargne et de conviction, Richard Taylor, c'est quand même le maillon faible du groupe, et c'est dommage parce que musicalement, British Lion, c'est plutôt efficace, et The Burning compte son lot de compos entraînantes et intéressante avec un Steve Harris qui s'en donne à cœur joie. Tant pis, on va retenir que le positif, on va laisser de côté cette prestation moyenne de Taylor pour apprécier un extrait de The Burning avec justement le morceau titre, ça s'appelle The Burning, voici British Lion. Bon voilà, on peut pas le nier, il y a quand même un petit côté Maiden dans ce morceau de British Lion, extrait de The Burning qui paraît aujourd'hui. C'est bien sûr le groupe parallèle de Steve Harris, donc forcément, hein, il y a la patte du maître. Et c'est vrai que si vous rajoutez une ou deux guitares à tout ça, vous mettez un Bruce Dickinson au chant et voilà, on a presque du Maiden en un peu plus hard rock, en un peu moins heavy. En tout cas, c'est un petit peu dommage de ce bémol du chanteur parce que sinon les morceaux sont plutôt sympas et bah, c'est à découvrir quand même, hein, cet album de British Lion. Franchement, c'est pas un mauvais album du tout. Vous êtes toujours sur Bike FM, vous êtes toujours dans Check Me Load et dans, allez, 4 minutes, on sera en compagnie de Olivier du groupe Days Await, donc guitariste du groupe, qui va nous présenter cette formation de Lyon et leur nouvel album Rapture Smites, qui est paru le 11 octobre dernier. Alors, c'est un groupe de Lyon avec quelques membres de Saint-Étienne qui a fait ses débuts en 2002. C'est déjà une belle carrière. Et depuis, ben, y a un line-up qui a quand même pas mal évolué, qui se compose à ce jour de Flo au chant, Jordan à la guitare, et puis Olivier aussi à la guitare. Et puis il y a Tommy, le frère de Jordan, à la batterie. Pour ce qui est du poste de bassiste, il est actuellement inoccupé et le groupe a d'ailleurs récemment lancé un appel à postuler sur Facebook. On en profitera tout à l'heure pour demander à Olivier où ils en sont et pour savoir s'ils ont trouvé enfin le batteur qui leur convenait. Pour ce qui est du style, alors on est sur un mélange entre death, thrash, hardcore, un mélange de sons modernes agrémentés de diverses influences. Alors par exemple, on a quelques touches de grind, pour vous en citer une. C'est un groupe qui avait déjà sorti un démo et un split avant de sortir un premier album en 2011 qui s'appelait Out of Adversity, qui avait été suivi en 2014 par l'album The Abominable tout court d'ailleurs, qui, pour la petite anecdote, contient un morceau qui s'appelle I Am The Abominable. Abominable, qu'on entend dans la BO d'une comédie française qui s'appelle Joséphine s'arrondit, et avec l'actrice Marie-Lou Berry. C'est tellement rare d'entendre du métal dans un film grand public qu'il fallait le souligner. Ensuite, le groupe va enregistrer avec HK Cross au Vacamara Studio un album qui s'appelle Solve Coagula, qui paraît en 2017, qui va connaître un accueil quand même extrêmement favorable. Et donc, après avoir posé les bases avec ce Solve Coagula, on peut dire que Death Away posait son univers, un univers qui se dessinait de plus en plus. Et avec Rapture Smites, paru en octobre dernier, un univers qui s'affirme et qui place le combo lyonnais parmi les formations death thrash les plus prometteuses du moment. Rapture Smites, dont le très bel artwork est signé du graphiste clermontois Stan W. Decker, nous propose une interprétation contemporaine de l'apocalypse à travers le symbole des quatre fameux cavaliers du chaos, en abordant des thèmes bien actuels. Et bah, c'est vraiment réussi, quoi. Non seulement le disque il est homogène et cohérent, mais la prod, qui est signée encore une fois HK Cross, elle est aussi puissante qu'impeccable. Et que dire de la prestation des membres du groupe, qui est aussi très impressionnante. On va bien sûr reparler de tout ça dans quelques minutes avec Olivier, donc un des deux guitaristes, mais pour se mettre dans l'ambiance, on va tout de suite écouter un extrait de l'album Rapture Smites avec le morceau Loot Thy Neighbor. C'est tout de suite, c'est sur Bike FM.
Drink!
vendredi, le métal fait son show sur Bac FM. Bienvenue dans l'émission Check Me Load si vous nous rejoignez. À l'instant, c'était le titre Loot My Neighbor du groupe Days Away. Il s'agit d'un extrait de leur nouvel album qui s'appelle Rapture Smites, qui est paru le 11 octobre. Et pour nous le présenter, eh bien, j'accueille Olivier, qui est guitariste au sein du groupe. Salut Olivier.
Salut, salut Laetitia.
Alors avant de parler un petit peu plus en détail de votre nouvel album, ce que je te propose c'est qu'on fasse un petit peu plus ample connaissance. Est-ce que pour commencer tu peux nous présenter Days Away et puis bah, nous résumer un petit peu votre parcours jusqu'à aujourd'hui?
Ouais bien sûr, alors Days Away, pour parler musique c'est du death, thrash, hardcore et plus récemment un petit peu tech death, un petit peu plus death mellow.
Ouais.
Le groupe existe depuis 2002, donc le groupe est pas tout jeune, on approche bientôt les 20 ans.
Ouais.
Pas mal d'évolutions de line-up dû au fait que depuis quelques années, depuis deux albums en fait, on a vraiment la volonté de pousser le truc plus loin.
Mm.
Donc voilà, ça a amené à quelques remaniements, quelques changements de line-up. Et voilà, on est de Lyon d'ailleurs, je sais pas si j'ai dit, je crois pas.
De Lyon, et est-ce qu'il y a encore des membres de Saint-Étienne ou...
Ouais, bien sûr. Alors de Saint-Étienne, en fait, il y a Jordan, donc l'autre guitariste qui est de Saint-Étienne actuellement. Sachant que le batteur actuel, Tommy, qui est son petit frère à Jordan, Jordan et moi-même, on est tous les trois de Haute-Loire, en Auvergne.
Okay.
Donc on est entre guillemets, voilà, dans une heure aux alentours de Lyon, mais le groupe reste un groupe lyonnais, quoi.
D'accord, très bien. Tommy et toi, vous êtes les derniers arrivés, non?
Oui, on est les derniers arrivés depuis. Alors moi, je suis là depuis juin 2018.
Ouais, donc ça fait déjà un moment, quand même.
Ça fait, oui, voilà. Quand oui, dernier, mais pas depuis trois semaines, quoi.
Voilà.
Et puis Tommy, il a suivi après, juste après l'enregistrement de l'album, donc fin 2018.
Et j'ai vu sur votre page Facebook que vous étiez à la recherche d'un bassiste là actuellement.
Exactement, on est en recherche active de bassiste. Bon, on a déjà les pistes, on a déjà les candidatures, etc. On a une ou deux pistes très très sérieuses. Donc voilà, il nous reste un choix à faire et puis on a notre bassiste. Tout va bien se passer.
D'accord, donc vous allez nous le présenter d'ici peu sur les réseaux sociaux, j'imagine.
Ouais, c'est ça.
Ok, alors t'en as un petit peu parlé, hein, mais le son de Days Away, c'est avant tout un mélange de death, de thrash, de hardcore, un son très moderne, et malgré tout, et c'est d'autant plus vrai, comme tu le disais, hein, depuis un ou deux albums, il y a beaucoup d'influences, des influences qui semblent extrêmement larges et variées. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les univers musicaux de chacun, puis nous dire s'il y a un ou deux groupes qui mettent tout le monde d'accord?
Ouais, forcément, avec les changements de line-up, il y a des changements d'influence, même s'ils restent assez minimes au final, hein, parce qu'on a quand même un univers musical qui est très proche les uns des autres, avec, on va dire, au cœur de tout ça, le death metal.
Ouais.
On a tous été bercés par Death, Morbid Angel et compagnie. Et notamment, on va dire, le début du groupe avait beaucoup plus d'influence grind.
Ouais. C'est
ça qu'on retrouve, certaines influences grind, et Flo, qui reste un des membres originel apporte et garde ça dans le groupe, et puis ça fait partie de l'identité de Death Await aussi. Après oui, que ce soit Tommy qui est beaucoup plus dans le slam ou dans des métal plus extrêmes, vraiment Jordan et moi on est très tech death métal moderne en fait, hein. Mm. Mais je pense que la scène en général tend vers ça, et du coup bah nos influences aussi en fait, donc voilà. Et après un groupe qui mettrait tout le monde d'accord, en fait, il y en a plusieurs. Si je devais en citer un, j'en sais rien. Je sais que pendant très longtemps, Slayer a été dans les discussions du groupe. On peut citer. Bah, on a des. Honnêtement, c'est difficile de citer un groupe, quoi.
Bah surtout si vous avez finalement des univers qui se rapprochent, hein, en fait.
C'est ça.
Mmh. Ouais. Ouais, je comprends. Ouais. Moi, j'ai pas mal pensé par moment là avec le nouvel album à Sepultura.
Oui, bah un petit peu. Alors moi, ça fait partie de mon horizon musical, on va dire. Ça fait pas énormément partie de mes influences personnelles, mais pour le groupe, ouais, clairement, c'est tu auras quand même une place.
Alors votre quatrième album, on le rappelle, hein, il s'appelle Rapture Smite. Il est paru en octobre dernier. Il succède à Solvec Coagula, qui était 2017, qui avait reçu un très bon accueil et sur lequel, bah, on sentait justement que l'identité de Death Awaits, elle se dessinait. Là, avec Rapture Smite, vous avez nettement mis la barre un cran plus haut, et cette fois, bah, cette identité, elle s'affirme, elle évolue, elle prend une réelle ampleur. Est-ce que on serait avec Rapture Smite sur l'album de la maturité pour Desowet?
Alors, d'un point de vue intérieur, je sais pas, très honnêtement, puisqu'on fait les choses au fil du temps, en fait.
Ouais.
Enfin, c'est une espèce de snapshot de ce qu'on est en ce moment. Après, ce qui est sûr, c'est que nous, en sortant cet album, en composant déjà musicalement, l'idée de base, c'était de faire la musique qu'on aime, avec les influences qu'on aime, avec les mélanges qui nous plaisent, et avec comme seule restriction le fait qu'à la fin, est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'est du Death Away? Est-ce qu'on a toujours l'impression de jouer la musique de ce groupe-là? À partir du moment où la réponse est oui, voilà, en fait. Donc, est-ce que c'est la maturité? Je sais pas, d'un point de vue extérieur, peut-être, t'es pas la première à nous le dire, donc ça doit dénoter quelque chose, forcément.
Ouais, c'est vrai que le ressenti de cet album, même encore par rapport au précédent, c'est que voilà, vous avez poussé le curseur à fond là et vous avez
ouais,
pris.
Après, il y avait cette volonté de toute façon de mettre la barre un cran plus
ouais.
haut. Et pour le prochain, ce sera le cas aussi.
Ben en tout cas,
on y arrive bien sûr, mais c'est le but, toujours un cran plus haut quoi.
C'est bien parti, je pense.
Bon.
et comment ça se passe le processus de composition au sein de Desowet, par exemple pour cet album-là? Comment vous avez bossé?
Alors pour cet album-là, moi c'est simple. Quand je suis arrivé juin 2018, l'album était déjà composé.
D'accord.
En grande, voire très grande partie par Jordan, donc l'autre guitariste. Et pour te donner l'ambiance dans le processus de création du groupe, moi clairement on m'a dit voilà, t'arrives dans le groupe, tout ce que tu veux revoir, tout ce que tu veux changer, tu le fais et on en discute. Donc en gros tout le monde met la main à la pâte, tout le monde apporte les modifications qu'il veut à partir du moment où bah ça plaît à tout le monde est d'accord pour l'assumer, tout le monde se sent bien avec ça et tout le monde a un sentiment de cohérence en fait avec l'identité du groupe, même si elle évolue. Voilà.
Là, au niveau de la batterie sur cet album-là, c'est pas Tommy qui a enregistré.
C'est pas Tommy qui a enregistré les pistes. C'est Kevin Paradis, donc à présenter, connu et reconnu,
bien
donc
sûr.
Batteur de Benighted, batteur de Mithridatic. En session, il en a fait Sepultura, Decapitated, etc. Donc vraiment un monstre. En fait, on n'avait pas de batteur à ce moment-là. On avait des batteurs de session, etc. Tommy était déjà dans les tuyaux, hein, en session, avait déjà fait de la session avec le groupe.
D'accord.
Et il nous fallait un batteur pour l'album. Et quitte à pas avoir de batteur, autant prendre un tueur, quoi. En fait,
bah ouais.
C'est un peu ça le constat, quoi.
C'est quand même la classe.
Bah ouais. Et puis, si tu veux, il n'y avait pas tellement de questions sur le fait que est-ce que Kevin était l'homme de la situation d'un point de vue technique ou musical, parce qu'on savait qu'il allait nous apporter. Eh ben, ça touche, quoi. Mmh. Son approche des parties batterie qui étaient déjà composées, mais son approche à lui de ces parties-là. Et en plus, comme Kevin et Jordan, en fait, sont potes depuis très longtemps, depuis le collège, ont déjà eu des groupes ensemble, donc musicalement déjà liés. Alors, ça n'a pas été le choix facile, mais ça a été une approche facile.
D'accord, ouais.
C'est-à-dire que, voilà, c'est un choix pragmatique de Kevin et la bonne personne, et en plus, bah, c'est facile de l'approcher parce qu'on connaît déjà.
Donc, Rapture Smites, c'est en quelque sorte une interprétation contemporaine de l'apocalypse. Vous y faites référence à plusieurs reprises et bah, dès le titre de l'album, hein, qui fait allusion au ravissement. Il y a aussi l'artwork qui représente les cavaliers de l'apocalypse. On peut citer le morceau Armageddon, bien sûr, qui conclut le disque. Aussi une référence aux trompettes de l'apocalypse avec le triptyque Trumpeting Butchery. Comment ça vous est venu cette idée d'utiliser le prisme bah, de ces écrits biblique pour parler bah, de préoccupations qui sont bien actuelles comme Trump, comme le réchauffement climatique par exemple?
Alors en fait, du coup c'est vrai que j'ai peut-être pas été, enfin je l'ai pas dit, mais c'est vrai que la composition musicale c'est beaucoup Jordan. Après sur les paroles c'était plus l'affaire de Flo, donc le chanteur.
Ok.
En fait. Et donc le thème, eh ben, il lui est tombé un petit peu sous le, c'est un peu tombé sous le temps. Il a commencé à écrire là-dessus, ça lui paraissait bien. Et en plus de ça, le constat aujourd'hui, enfin, je veux dire, on n'a pas inventé ce constat-là.
Mmh, bien sûr.
Le constat, il est facile sur l'aspect économique, sur l'aspect écologique, etc. Et donc, en fait, par contre, c'est vrai que le rapprochement avec les cavaliers quatre cavaliers de l'Apocalypse, eh ben, il est hyper intéressant parce qu'il apporte un côté ben, un petit peu mystique à ça. Et en plus de ça, en fait, c'est une imagerie, c'est une un ensemble de choses qui marchent, qui marchaient et qui marchera toujours et qui marchent encore aujourd'hui en fait. Donc en fait on n'a pas c'est pas une démarche de prise de position, c'est une démarche de constat. Parce que il n'est pas question de prise de position, en fait, quand on parle des Cavaliers d'Apocalypse. Ils sont ce qu'ils sont. Et c'est ce que représente, entre guillemets, le thème de l'album.
D'accord, c'est vrai qu'on est... Alors, on n'est pas sur un concept album à proprement parler, mais on n'en est pas loin, quand même, puisqu'il y a une cohérence qui est assez incroyable sur cet album.
C'est ça. Bah, c'est le thème est le même du début à la fin. Donc, avec ces Cavaliers d'Apocalypse, avec, on peut dire, un album qui évolue en chapitres, en fait, par cavalier, avec le début sur le capitalisme, ensuite la guerre, ensuite la mort, les pertes de Dieu, le changement de Dieu avec la technologie, en fait, les nouveaux dieux, voilà. Donc oui, en fait, c'est une espèce de... C'est pas une histoire, mais c'est un chapitre sous différents angles, et ces angles sont les Cavaliers de l'Apocalypse. Ouais.
Et pour en revenir à l'illustration, elle est absolument magnifique. Ouais. Donc c'est Stan W. Decker qui en est l'auteur. Il est très en vue en ce moment, et il fait vraiment des pochettes absolument sublimes. Qu'est-ce qui vous a donné envie de lui confier l'illustration de cet album ?
Alors en fait, ça a été assez simple, déjà parce qu'effectivement, il est exposé, et c'est pas pour rien, hein, c'est vraiment un super boulot. En fait, ça a été assez simple, c'est-à-dire que quand il a été question de choisir quelqu'un pour faire cette cover, il y a eu une liste de noms, et dans ces listes de noms, il y avait Stan W. Decker, et moi, j'avais déjà travaillé avec lui, en fait. J'avais déjà travaillé avec lui pour un autre projet à moi, un projet de Heavy. Et en fait, si tu veux, dans le groupe, tout le monde était déjà d'accord sur la qualité de son boulot, et moi, je suis arrivé en disant, les gars, par contre, moi, j'ai déjà bossé avec lui, et c'est un gars super cool, c'est trop bien de bosser avec lui parce qu'il bosse bien, il est professionnel, il est réactif et tout ça. Donc en fait, on s'est pas posé plus de questions, quoi. C'est comme ça que ça s'est passé, en fait. Mais il a eu carte blanche, hein.
J'imagine.
Il a eu le thème en main. On a discuté un petit peu. Il a sorti 2-3 croquis. On a dit bah vas-y, fonce, quoi.
Alors tout comme pour l'album précédent, Rapture Smite, il a été enregistré du côté de Clisson au Vacamara Studio avec HK Cross.
Avec HK, exactement.
Alors lui aussi, il est très en vue. Hein. Actuellement, c'est un des producteurs français les plus demandés. Et outre son immense talent, il est reconnu pour son investissement très important envers le travail des artistes qu'il produit. Est-ce qu'il vous a guidé, conseillé durant l'enregistrement de ce nouvel album ?
Alors un petit peu, il avait pas cette position sur le papier, dans le sens où c'est pas pour ça qu'on c'était pas convenu, en fait.
D'accord.
Nous on a fait chez lui donc le mix, le mastering et les prises chant, et après ce côté producteur, en fait, ce côté conseil, discussion, évaluation, en fait, de ce qu'on avait fait, parce qu'on avait envie de ça aussi, de dire bon voilà, là maintenant t'as les pistes, t'as fait un mix, une mise à plat, etc., qu'est-ce que t'en penses,
ouais.
Donc ça a été un petit peu implicite, ce rôle-là.
D'accord.
Ça a été dans la discussion, dans les échanges, un petit peu au fur et à mesure qu'on enregistrait de nouvelles choses, voilà.
En novembre, il y a le magazine Rock Hard qui vous avait chroniqué dans sa rubrique Découverte. Et puis dans le numéro de décembre, on vous avait retrouvé sur leur fameux CD Sampler. C'était le morceau Circling the Drain, je crois. Est-ce que cette mise en lumière, ça vous a ouvert quelques portes pour ce nouvel album ? Est-ce que vous en profitez un petit peu de cette mise en lumière ?
Alors, à ma connaissance, on n'a pas eu de coup de téléphone éclair derrière l'apparition de ces articles, etc., où on nous a dit « on vous veut pour tel ou tel truc ». Par contre, ça se rajoute au reste, clairement, c'est une visibilité, honnêtement, hein, nous, c'est tombé un peu... Pas de nulle part, mais on était ravis de voir ça, c'est une espèce de consécration. Et donc en fait, du point de vue des gens, c'est ça aussi, quoi. C'est-à-dire que ça apporte une crédibilité, une visibilité que seul un magazine comme Rock Hard, par exemple, peut nous offrir. Donc forcément, ça nous apporte des choses.
Alors cet album, il est dans les bacs depuis octobre, on l'a déjà dit. Vous avez déjà commencé à le défendre sur scène. Et puis là, après une petite pause, vous allez reprendre la route. Et je crois que la première date pour 2020, ça va être à Dijon, c'est ça ?
C'est ça, Dijon le 24, donc le vendredi 24 janvier.
D'accord, donc nous, Bac FM, nous sommes en région Bourgogne, donc... ça peut intéresser nos auditeurs.
Bien sûr, ouais, bah, n'hésitez pas à venir, hein. C'est à l'Univers.
D'accord, donc à l'Univers, voilà. De Dijon. Et ce sera quoi la suite du programme pour les semaines, les mois à venir côté date ?
Alors, plein de belles choses. On avait fait donc le Rapture Tour. Donc on a fait depuis la sortie de l'album, donc octobre jusqu'à décembre.
Ouais.
Et là, on a sorti donc la deuxième partie, donc la rupture tour 2. Donc, ça nous amène jusqu'à mai. On a Dijon. On ouvre pour Ultra Vomit à Saint-Étienne le 14 février. Donc ça, c'est super cool. Lendemain, on est à Montpellier. En mars, on fait Nantes, Limoges. Ensuite, avril, on a Rennes pour le Licorne Fest avec Cytotoxine et Atlantis Chronicle, par exemple.
Ouais.
Ensuite, Limoges. On fait un passage en Suisse, donc le 24 et 25 avril. À Lausanne et Genève, et ensuite on est au Luxembourg le 2 mai à Tétange.
D'accord, donc
pour un fest, une explosion fest.
Eh ben tout ça, ma foi, on pourra le retrouver sur les réseaux sociaux, hein, notamment sur Facebook.
Oui, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. C'est vraiment le moyen le plus sûr. C'est là-dessus qu'on diffuse tout, que toutes les dates sont visibles, toute notre actualité est vraiment centralisée sur Facebook.
En tout cas, Olivier, merci de nous avoir présenté Days Awaits et puis votre nouvel album, hein, Rapture Smites, qui, rappelons-le, est paru le 11 octobre. Et je te souhaite bonne chance, bon courage pour cette journée de promo qui va être bien chargée.
Ouais, t'en remercie.
Et puis peut-être qu'on se croisera sur la route d'ici quelques temps, ou peut-être à une prochaine interview alors.
Eh ben avec grand plaisir, je te remercie Laetitia, et puis à bientôt. Ouais.
Et puis ce que je te propose, c'est qu'on se quitte avec un nouvel extrait de l'album, et j'ai choisi le morceau Evergreen House.
Impeccable.
Merci encore Olivier, à bientôt, salut. Bon courage. Days Await avec un extrait de l'album Rapture Smite qui est paru en octobre dernier. Vous venez d'écouter le titre Evergreen House, extrait donc de ce nouvel opus qu'Olivier, un des guitaristes, vient de nous présenter il y a quelques minutes. Il était avec nous en interview pour tout nous dire sur ce Rapture Smite et sur le groupe Days Await. Donc j'espère que vous en avez bien profité et que vous allez maintenant aller écouter cet excellent album que je vous conseille. Sans transition, je vous propose qu'on passe à la rubrique Sortez Cover qui conclut chaque semaine l'émission sur un air de reprise. Et pour se donner un petit peu de baume au cœur en ce milieu du mois de janvier, on va faire un petit bond à la toute fin des années 70 avec un hit du disco, mais attention, revisité façon power metal par les albums de Mystic Prophecy, dont je vous ai présenté le nouvel album la semaine dernière. Là, on les retrouve avec un extrait de leur avant-dernier album qui s'appelle Monuments Uncovered, qui est paru en 2018, qui se compose de 11 reprises issues de répertoires divers et variés, comme ce tube de celle qu'on surnommait la reine du disco. J'ai nommé Donna Summer et son fameux Hot Stuff que vous connaissez forcément. C'est le 13 avril 79 que sort le 45 tours de la chanson Hot Stuff, qui sera le premier single extrait de l'album Bad Girls, qui lui paraît quelques jours plus tard. À cette époque, la chanteuse américaine Donna Summer est déjà une grande star de la scène disco qui déferle sur la planète, mais c'est la chanson Hot Stuff qui va devenir son plus gros succès et qui fera d'elle un mythe. Produite par Giorgio Moroder et Pete Bellotti, Hot Stuff se distingue des précédents hits de Donna Summer par l'arrivée de quelques influences rock. Et oui, elles sont pas flagrantes, mais il y en a quand même, et elles sont apportées par la guitare de Jeff Baxter, qui s'est auparavant illustré au sein des groupes Steely Dan et The Doobie Brothers. Alors, Hot Stuff va très rapidement devenir un immense succès et se classer en tête des charts de nombreux pays à travers la planète. La chanson sera numéro 1 aux États-Unis, au Canada, en Australie ou encore au Japon. En France, elle va se hisser jusqu'à la 10e place du hit-parade. Et autant vous dire que durant l'année 79, énormément de gens ont dansé sur la chanson Hot Stuff, ce qui va d'ailleurs connaître un regain de popularité assez inattendu en 97, grâce à une comédie britannique que vous avez certainement vue, qui s'appelle The Full Monty, dans laquelle on entend la fameuse chanson de Donna Summer. Et puisqu'on en est à parler cinéma plus récemment, on peut souligner qu'en 2015, on a également entendu Hot Stuff dans le film de science-fiction Seul sur Mars. Voilà, maintenant qu'on connaît un petit peu l'histoire de cette chanson, il est temps de pousser les meubles pour pogoter et headbanger sur la version revue et corrigée à la sauce power metal de Hot Stuff, une version signée donc des Allemands de Mystic Prophecy, et une reprise que vous pouvez trouver sur leur album Monument Uncovered, qui est paru en 2018. Sur ce, je vais vous souhaiter un excellent week-end. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures métal. Et en attendant, enjoy. Salut à tous, à la semaine prochaine.